Magnifique concert de Sopranissimo à Gréoux, c'était la Nouvelle-Orléans au bord du Verdon. Jazz festif à Gréoux-les-Bains.
Depuis 4 ans, une poignée de passionnés a créé le Gréoux Jazz Festival avec une option majeure, faire vivre le jazz plutôt classique. Vieux style, disait Michel Jonas, et ça marche. New Orleans, ragtime, blues ou swing, les spectacles s'enchaînent avec bonheur lors de ce que nous appelons l'arrière-saison. Et récemment, c'est un ensemble remarquable qui a conquis le public sous la tutelle bienveillante de Sidney Bechet. Un jeune homme de 84 ans et un gamin de 70 ballets ont porté la bonne parole avec l'ensemble Sopranissimo. Ils sont deux pointures de la scène jazz, Marc Laferrière et Daniel Huc, pour l'occasion tiennent les saxophones soprano, les petits et donc plus aigus de la famille, mais les leurs sont recourbés, ce qui donne un son plus feutré et plus vaste dans l'espace qu'un soprano droit. Accompagné par Olivier Michaud au sousaphone pour les basses et au rythme du banjo tenu par Nathalie Renaud, les deux compères ont distillé un jazz festif très communicatif. Leur répertoire est composé de classiques empruntés à Bechet, Armstrong et autres Fats Waller que présente Marc Laferrière avec humour quand Daniel Huc, lui, se lance dans des scats acrobatiques surprenants. Nous nous sommes entretenus de tout cela et du reste, dont leur première rencontre avec le jazz.
Marc Laferrière, vous vous rappelez votre premier contact avec le jazz ?
Ah oui, absolument, absolument. Ah ben vous voulez le savoir ?
Évidemment.
Eh ben écoutez, je vais vous le dire. C'était au moment de la libération. Eh oui, j'étais vivant et j'écoutais déjà de la musique. J'avais 10 ans quand les Américains ont débarqué. À la maison, ma mère, au lieu d'écouter Edith Piaf à la radio, on tombait sur des orchestres où c'était rythmé et tout ça. Et j'ai appris après que c'était Glenn Miller et Django Reinhardt, etc. Donc oui, ça a été mon premier contact avec le jazz, absolument.
Daniel Huc ?
Ah ben moi je suis né dedans parce que pour mes 2 ans, j'ai eu les Oignons en 78 tours que je connaissais pas.
Ouais.
Mes parents ont décidé que j'aurais les Oignons et pour mes 3 ans, j'ai eu Petite Fleur. Et pour mes 4 ans, j'ai eu les Oignons et Petite Fleur mais en 45 tours au lieu d'en 78 tours.
Ah, ouais. On est déjà dans Sidney Bechet et la musique que vous pratiquez. Tous les deux, vous avez une grande expérience, mais en même temps, une énorme complicité musicale et personnelle.
Eh ben oui, je crois que vous avez tout dit. En effet, on n'a jamais joué longtemps ensemble. Je crois qu'on a beaucoup d'estime l'un pour l'autre depuis toujours. Et moi, j'ai toujours dit que Fred et toi, vous aviez les articulations qui m'intéressaient le plus au saxo-soprano. Même quand je t'avais vu jouer avec François Guin à Gargilès, tu vois que c'est pas avant-hier. Et puis, sur le plan humain, Daniel, c'est un bon gars. Avec des idées bien arrêtées sur plein de choses, mais avec lesquelles on peut discuter et qui est très intéressant. Donc moi, sur le plan humain, il m'intéresse. Et sur le plan fidélité, c'est formidable, quoi. Donc voilà, alors on se raconte des histoires avec le saxo interposé. On continue la conversation, c'est rien d'autre, hein.
Une conversation musicale, mais en même temps, une conversation qui parfois est chantée. Et c'est un orfèvre du scat, Daniel Huc. Il faut pas l'oublier.
Orfèvre, je sais pas, parce que de toute façon, ça, j'ai rien appris. En fait, j'ai scaté parce que j'arrivais pas à jouer du trombone. Donc, vous voyez, c'est utilitaire, surtout. Et puis, j'ai jamais eu conscience d'avoir une très belle voix. Et puis, en vieillissant, puis il y a des gens pour vous dire, oh, j'ai eu des frissons et vous pensez que vous déclenchez des frissons à mon âge. C'est pas mal,
ouais.
C'est pas tous les jours.
Mais c'est le scatteur, vraiment, Daniel, c'est la référence vraiment en scat. Et en plus, il n'y a pas que la voix, il y a l'attitude, il y a ce qu'il raconte en scat sans dire une seule parole sensée. Le discours l'est, lui. Donc les gens se sentent très concernés quand Daniel le scat, oui, vraiment.
C'est peut-être plus magnétique la voix que l'instrument de musique qui est plus courant. Avoir une interprétation différente.
En fait, je me prends pas pour un autre, mais j'essaye de faire en sorte que ce qui sort de ma bouche soit à la hauteur de ce qui sort de mon sax et inversement. Et des fois, bah oui, c'est le même niveau, c'est pas bon. D'autres fois, ça va mieux.
Non, c'est très très intéressant. Moi, c'est ce qui m'a fait demander à Daniel de bien vouloir jouer avec moi dans cette formule. Généralement, les musiciens disent que quand dans un orchestre il y a un saxophone soprano, c'est la terreur. Parce que c'est un instrument assez envahissant. Et d'ailleurs, ça se comprend très bien, puisque le soprano, le normal, c'est un instrument droit. Le son sort assez loin. et il faut toujours le corriger un peu parce que l'instrument lui-même n'est pas très juste. Quand vous avez une trompette à droite et une clarinette à gauche ou un trombone et que vous voulez vous entendre vous-même en train de jouer, bah vous jouez trop fort pour vous entendre et corriger le son. Moyennant quoi, vous êtes odieux pour les autres. Donc le saxophone soprano, c'est une horreur dans un orchestre pour les autres musiciens. Mais au bout d'un certain temps, on commence à savoir s'en servir, on peut jouer moins fort. Et puis quand on prend le sax soprano courbe, qui d'ailleurs est le premier que Béchette a joué, quand Béchette a débuté, il a débuté sur un courbe. Eh bien, le son remonte, on s'entend jouer, on peut jouer beaucoup moins fort. Et j'ai eu le culot, malgré la réputation du soprano comme instrument aussi épouvantable que le banjo, de monter un orchestre avec deux sopranos et un banjo quand même, qui se trouvait une banjoïste.
Et c'est un bel ensemble que vous formez tous les quatre avec votre bassiste, votre Hélicon qui joue. Marc Laferrière.
Sousaphone, exactement.
Un sousaphone, et on va rendre hommage à Sousa aussi, en même temps. Marc Laferrière, si Daniel-Luc Scat, vous maniez l'humour merveilleusement bien aussi.
Alors là, c'est comme, exactement comme Daniel avec son scat. Il y a les jours avec, les jours sans, il y a le... Non, mais je veux dire, ça se commande pas. C'est en fonction du public, j'essaye de considérer qu'un concert de jazz, comme un concert d'autre chose d'ailleurs, c'est aussi un spectacle, et donc d'essayer d'émailler par quelques petits commentaires plutôt souriants. Bon, ce que j'aime, c'est mettre le public dans ma poche en le faisant rigoler, quoi, voilà. Mais ça se commande pas, c'est beaucoup en fonction du public et de ses premières réactions, et puis ça vient petit à petit, et voilà, il y a des concerts où c'est plus que d'autres. La partie spectacle est plus forte. Et alors là, Daniel est parfait comme complice.
Alcoolite.
Oui, là c'est l'alcoolite terrible. Non, ça marche très bien avec Daniel, oui.
Tous les deux, vous êtes des musiciens capés et très expérimentés. Est-ce qu'on peut dire, Marc Laferrière, par exemple, que la musique, ça conserve?
Ben, quand je me regarde, oui, parce que... Quand je vois les gens de mon âge, dans quel état ils sont la plupart, et c'est bien normal, moi j'ai 84 ans quand même, alors j'ai pas de canne, je continue à conduire plus de 40 000 km par an. Bon, la vérité, c'est que quand je fais un concert comme ce soir, ou je mets plus longtemps à récupérer. Il vaut mieux pas que j'en fasse un demain, faut mieux attendre 2-3 jours. Mais bon, quoique là, j'ai joué avant-hier, hein, au Petit Journal, et dans de mauvaises conditions, parce que j'avais des soucis techniques et des soucis familiaux, donc puisque c'est là, je venais d'apprendre que Stan avait ça. Et donc, oui, c'est curieux, on s'y attend pas. Mais c'est vrai que la musique aide pour moi à garder un certain esprit, parce que comme je suis vraiment dans les plus âgés, je garde le contact avec ceux qui m'accompagnent ou qui jouent avec moi et qui sont évidemment beaucoup plus jeunes. Donc je garde un contact éveillé et ouvert avec des gens qui ont 20 à 30 ans de moins que moi. Ça aide à ne pas être tout de suite trop vieux con, quoi.
Ça n'est pas le cas de Daniel-Luc. Il a quelques années d'écart avec vous. Vous êtes aussi concerné quand
70,
même par ça.
Hein, je suis à 70 quand même. Alors, ce qui n'est pas quand même de toute jeunesse, mais enfin bon, après, quand je vois Marc, je me dis, bon, ça va, l'avenir est peinard. Non, ce que je voulais dire à propos de Marc, c'est que il n'a eu de cesse, depuis qu'on se fréquente, on s'est pas beaucoup fréquenté à mes débuts, parce que j'étais dans presque d'une autre école. J'adorais Béchet, je suis né dedans. Mais il y a eu tellement d'imitateurs plus ou moins doués de Béchet, que tout en jouant des œuvres moins connues que celles qui ont fait son succès en France, de Sydney, je pense à I'm So Goodbye ou d'autres trucs dans ce genre-là, ou Southern Sunset, etc. Et puis quand même, j'ai joué avec des sopranistes en gardant mon alto. Mais là, cette idée qu'il a eue de jouer à deux sopranos, alors par contre, ça oblige, et moi ça m'oblige, qui n'est pas ma spécialité, à aussi être complémentaire. Alors qu'évidemment, mais alors, je dois dire une chose, c'est que Marc n'a cessé, depuis qu'on se fréquente, de m'encourager, de me féliciter, et de se montrer tout à fait différent de ce que j'aurais pu imaginer il y a longtemps. C'est-à-dire quelqu'un d'ouvert, d'amical, de généreux. Et moi, si vous voulez, à partir de ce moment-là, je n'ai qu'à dire oui, parce que j'adore dire oui à des gens qui le méritent.
Alors, moi, je voulais dire quelque chose. J'ai été catalogué béchettisant. Et c'est vrai, que j'ai choisi le saxo-soprano quand j'avais 12 ou 13 ans à cause de ce que j'entendais de Béchette. Mais je suis quelqu'un de très réaliste et de très conscient des choses. Et quand j'ai commencé à décortiquer Béchette, j'ai vu que c'était trop fort pour moi. Donc, j'ai joué, quand on voit Olivier Franc est arrivé à faire vraiment Béchette. Ça, il faut le reconnaître et c'est bien. Moi, je vais au concert d'Olivier, moi. Je vais au concert d'Olivier tellement c'est formidable. Et c'est Béchette, vraiment. Tandis que moi, c'était trop difficile pour moi. Je me suis dit, je vais pas passer ma vie à faire des gammes tous les matins pour arriver à rester l'imitateur de Béchette. Donc je garde l'instrument et je joue. Alors j'ai pris un modèle formidable que je conseille à beaucoup. C'est Monsieur Je Peux. C'est-à-dire, moi, je joue comme je peux et surtout pas. Non, mais surtout pas en étant coincé par une effigie et un truc. Et puis je vais vous dire quelque chose. Quand vous êtes omnubilé par un personnage complètement omnubilé et que vous l'imitez presque bien et tout, mais la vie, il y a d'autres trucs quand même. Il y a la pêche à la ligne, il y a l'amour des chiens, il y a plein d'autres choses. Et si on se consacre trop à ça, on fait rien d'autre. Et un jour, on se réveille à 93 ans en disant eh merde, j'ai un peu mal au cœur et j'ai pas eu le temps de faire tout ce que. Eh oui, donc le côté modèle. Alors moi, commercialement, j'ai accepté qu'on écrive des trucs, Marc Laferrière, Sidney Béchette, etc. Mais je sais que c'est pas vrai du tout. Je voudrais, mais de temps en temps, on peut faire quelques phrases où on, mais comme j'imite Michel Serrault, je peux imiter Béchette pendant 4 mesures. Mais je suis pas Béchette, j'ai pas le son de Béchette, c'est le soprano, bon. Mais je veux pas me dévaloriser. Non. Mais je ne suis pas école Béchette à tout craint. Tout en admirant tout ce qu'il a fait.
Bien sûr.
On va dire qu'il y a la note influence et puis la note personnelle.
Oui, voilà.
Et on se met d'accord.
Ça, c'est la philosophie même du jazz. Personne ne peut parler au nom du jazz. Mais enfin, de ce que j'ai compris, moi, de cette musique, c'est que effectivement, Béchette lui-même, on en a les preuves, a mis ses pas dans ceux de gens d'avant.
Oui, absolument.
Voire de compositeurs de ragtime, par exemple.
Oui, oui.
Moulin à café, on a retrouvé que c'était des exercices. Et il en a fait un compo, bon, etc. Mais je crois que c'est ça la vérité. C'est de commencer, comme tout commençant, par mettre ses pieds dans les pas des géants. Et puis au bout d'un moment, que tu choisisses ta solution en disant « Non, mais je suis pas assez fort pour jouer. » Moi, j'ai essayé avec Parker, je peux dire, ça m'a fait pire encore.
Ouais.
C'est-à-dire que j'ai choisi un morceau, je me suis dit, tiens, je vais, au lieu d'annonner peu ou prou les thèmes de Parker, je vais en prendre un, puis alors je vais le jouer
pareil.
Vraiment pareil. Ouais. Et j'ai choisi un blues, en plus un truc qui s'appelait Relaxing at Camarillo, qu'il a composé juste à l'hôpital Camarillo Hospital, où il avait été enfermé parce qu'il avait des crises à cause de la drogue, enfin je vous passe. Et ce morceau, il est pas difficile. Je me suis dit, c'est pas le plus difficile des morceaux de Parker, je vais y arriver. J'ai failli devenir fou.
Ouais.
Au bout de 4 jours que je le travaillais, j'ai compris qu'il fallait exactement que
Moi, mon morceau qui m'a fait abandonner le fait de vouloir jouer Béchette, c'est Embraceable You, que j'ai appris note pour note, que j'ai joué exactement pareil, que j'ai enregistré sur un petit magnétophone, que j'ai joué à la même vitesse, et j'ai passé les deux en même temps, et j'ai plié bagage. Parce que j'ai compris que c'était pas pareil.
En fait, on a le même parcours.
Exactement.
Parallèle, en tout cas.
Exactement. Et ça, j'habitais encore chez mes parents. Donc, tu vois, c'est pas tout jeune. Et là, j'ai compris, j'ai dit, bon, il y a des monuments auxquels on touche pas, et on les laisse, et on les salue respectueusement.
Mais comment veux-tu qu'un jeune adulte blanc français arrive à l'intensité dramatique d'un Béchet qui avait un métier complètement dingue.
Qui avait un passé de noir et de créole.
Mais
voilà. Et alors moi, j'ai eu une chance qui m'a aidé à être réaliste. Alors ça, c'est une chance que eux, ils ont pas eu, les petits jeunes qui ont 15 ans de moins que moi. C'est que j'ai été un des derniers à avoir la chance de jouer avec les inventeurs de cette musique. J'ai joué beaucoup avec Albert Nicolas. J'ai eu Bill Coleman pendant des années. J'ai joué avec lui. J'ai eu la chance de jouer avec Barney Bigard. J'ai eu la chance de jouer avec des mecs comme ça.
Et là,
tu écoutes, tu vois, et ils t'apprennent des trucs. Voilà. Et en plus, ils t'apprennent l'indulgence, parce que je me souviens de Barney Bigard à qui je disais que j'aimais pas beaucoup ce trompette qui jouait quelquefois avec Béchette, celui qui a fait Martinique, tu sais, connu, tu vois. Enfin bref, on va pas dire le nom, ça serait méchant. Je dis, j'aime pas du tout comme il joue. Il a fait des concerts à Paris, ce mec, à la trompette. Et Barnet qui me dit, mais Marc, tu sais, en Amérique, je faisais les jam sessions quelquefois avec lui. Eh bien, si tu écoutes bien, souvent, entre le sol médium et le mi au-dessus, il a un joli son. Hein. Mais il le disait pas pour rire. Il le croyait, il disait, tu vois, il faut être indulgent, il faut être... Ah, je vais te le retrouver.
On est ici à Gréoux, vous avez déjà joué ici au Gréoux Jazz Festival. Quel regard vous portez sur ce festival particulier?
Alors moi, je porte un regard d'aveugle parce que c'est pas vrai, j'y suis jamais venu. Par contre,
alors, Daniel a joué.
Moi, je suis venu une fois, j'ai été très bien reçu, ça s'est très bien passé. Le public est d'une gentillesse formidable, donc c'est... Tout bien, l'endroit est bien, les gens qui s'en occupent sont super sympas, le public est impec. Je sais, rien n'a changé, je changeais rien. J'ai un très bon souvenir. La preuve, c'est pas très vieux, mais enfin, j'en ai un très bon souvenir.
Voilà.
Merci à tous les deux, changez rien non plus, c'est très bien comme ça.
D'accord.
Après cette interview, nous allons bien sûr écouter Sopranissimo dans ses œuvres. Enregistré à Gréoux, cette version de la célèbre chanson de Stephen Foster, Swanee River. Olivier Michaud, sousaphone, Nathalie Renaud, banjo, Daniel Huc et Marc Laferrière au saxo soprano. C'est Laferrière qui joue l'intro plutôt bluesy et c'est aussi lui qui impulse les changements de rythme. Sopranissimo, Swanee River.
Yeah.